Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Après la mort mystérieuse de son père Hossine Benedjahi, assassiné le 12 décembre 1975 à Bousfer en Algérie, à l'époque du président Boumédienne, Adila Benedjahi Soussafi décide de mener l'enquête. Mais Anneboum, une enquête algérienne, c'est tout de suite le troisième épisode de la première saison de cette série et ça s'appelle aujourd'hui Les Promises. Dans les deux épisodes précédents, après avoir interrogé sa mère sur ses souvenirs et notamment une phrase mystérieuse et prémonitoire qu'Adila aurait répétée à l'âge de 2 ans, « Papa est mort, papa est mort », notre enquêtrice a vaincu ses préjugés à l'égard d'un pays qu'elle connaît mal, pris un billet d'avion pour l'Algérie et commencé ses recherches à Batna, dans la ville natale de son père. Elle y a découvert l'existence d'un certain lieutenant Mokran, le supérieur hiérarchique de son père, qui détient peut-être une clé du mystère, mais reste pour l'instant introuvable. D'après les éléments qu'elle a recueillis, Hossine, son père, aurait en effet découvert des malversations comptables dans la ferme où il travaillait et aurait été assassiné pour cette raison. Mais voici qu'une autre piste se dessine à Batna en parlant avec quelques tantes et cousines, le psychodrame familial et un nouveau coupable, la mère. Mais Anneboum, une enquête algérienne, c'est le troisième épisode tout de suite par, bien évidemment, Adila Benedjahissou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Là.
Allez, merci. Allez, la prochaine, Chapa. La prochaine, tu viens chez moi.
Je viens chez toi, même si tu penses que ma mère est une meurtrière.
Et pourquoi je parle comme ça? C'est moi ta mère, c'est pas ma mère, c'est moi. Je le prends sur mon dos, il dort avec moi, toujours, parce que je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je parle comme ça. Alors, allez, bon voyage.
Merci.
À la prochaine,
Jacques. Ouais. Porte-toi bien.
Merci.
Prends soin de toi.
Merci, tu es bien gentil.
Ça faisait déjà un bon mois où tu arrêtais pas de dire « Maman, papa est mort ». Maman, papa est mort.
C'était l'Aïd de l'Aïd el-Kébir. C'était l'Aïd du sacrifice.
Comme quoi, en fait, la sensation de mort rôdait autour de nous.
Il a été assassiné chez lui.
Et les responsables, c'était des militaires, c'était pas des civils. Aussi, il n'avait pas de problème avec personne.
Sauf qu'on n'a jamais su la vérité. Même pas, même celle-là.
Moi, en tant que Benedjahi, je peux te dire que ça a fait un gros boom dans la famille.
L'armée fait partie de la nation, fait partie du peuple.
Franchement, personne ne sait, personne. Personne ne peut savoir ce qui s'est réellement passé.
Ça s'est passé comment, vous vous souvenez?
C'est tellement loin, plus de 40 ans. Hein.
Dieu seul le sait.
Ouais, Dieu seul le sait. Dieu et l'assassin.
Et l'assassin, voilà.
Ma tante Léla a beau se justifier en me disant qu'elle a élevé mon père, qu'elle se considérait comme sa mère, le choc est violent.
C'est bien dommage.
Je rêvais de mener une enquête criminelle scientifique et je me retrouve immergée dans un psychodrame familial. Ma tante paternelle est persuadée que ma mère a tué mon père. Pour y voir plus clair, je dois comprendre d'où sort l'accusation de ma tante. Un conseil du commissaire, l'enquêteur que j'ai rencontré, me revient en tête. Une enquête se fait en escargot. Ça ne veut pas dire qu'on enquête lentement, mais qu'on part toujours du plus proche entourage de la victime pour s'éloigner progressivement. Par exemple, en cas d'enlèvement d'enfants, on commence toujours par soupçonner les parents. Or, depuis le début, je fais le contraire. Je recherche d'obscurs militaires sans observer l'entourage familial et amical de mon père. Que ce soit clair, je n'envisage absolument pas la possibilité que ma mère ait tué mon père. Mais ma tante est persuadée que d'une manière ou d'une autre, elle est responsable de sa mort. Pourquoi? Que s'est-il passé entre mes parents et la famille Benedjahi? Tout ce que je sais sur le mariage de mes parents, c'est ce que ma mère m'a raconté. Mon père et ma mère s'aimaient sans penser au lendemain, mais quand elle est tombée enceinte, très vite, ils prennent la décision de se marier.
Alors, un jour, il m'a dit, je vais voir mes parents et il faut que je prenne quelques papiers. Et quand je reviens, on va essayer de se marier. Donc, il est parti chez ses parents. Il en a parlé à son frère, qui lui-même en a parlé à son père. Et donc, le père de Hossine l'a accompagné au train en lui donnant l'argent et en lui disant « T'es sûr, t'as rien oublié en papier ? Bon, ben, je te souhaite le plus grand bonheur. » C'est là que Hossine a compris que son père était au courant.
Mais dans Bene Jai Street, la rue où habite ma famille, l'histoire est totalement différente, comme l'explique mon oncle Nourdine, que vous avez déjà entendu. Est-ce que tu te souviens du moment où il est rentré pour dire qu'il allait se marier ?
Non, il n'est pas rentré. Et on s'est douté qu'à travers des nouvelles, qu'il s'est marié. Il s'est marié et c'était comme un coup de massue dans la famille. Parce que avant, toute la famille attendait à ce que Hossine termine ses études et il rentre à la maison et on allait faire la grande fête. Il faut qu'il se marie et surtout, il voulait que ça soit Fadila pour Hossine. Donc, une fois qu'on a su la nouvelle, tout le monde était abattu, ils étaient déçus, il leur a joué un sale tour, tu vois. Et personne n'a apprécié. D'ailleurs, on lui a fait passer le message que, voilà, tu n'es plus notre fils, tu te démerdes, on ne veut plus te voir. C'était le message qu'on lui a transmis. On n'avait pas le téléphone chez nous. Et c'est à partir de là qu'il a écrit une lettre. Je me rappelle très bien. Il a écrit une lettre de presque de 3 pages où il demandait pardon. Oui, pour moi, bon, vous resterez toujours mes parents. Voilà, c'est le destin a voulu que ça soit cette femme. Maintenant, c'est à vous. Soit vous m'acceptez. Moi, je vous considère toujours comme étant mes parents et je vous dois tout le respect. Maintenant, vous, si vous ne voulez pas de moi, tant pis. Mais moi, je resterai toujours votre fils chéri, votre fils adoré. Et puis, en 73, quand tu es né, il y a mes oncles qui sont venus chez mon père. Ils lui ont dit, écoute, bon voilà, c'est ton fils, que tu le veuilles ou pas, c'est ton fils. Tu ne peux pas le renier, tu ne peux pas faire cela. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc, il s'est ressaisi. Il lui a préparé tout ce dont il avait besoin pour se marier. Des matelas, de la vaisselle, un ravitaillement de matières premières. Donc il a pris tout ça dans la camionnette. Il a pris ma mère, à l'époque elle était bien portante. Et ils sont allés lui rendre visite et par la même occasion ils lui ont pardonné.
Mais c'est marrant parce que maman elle n'a pas du tout la même version. Elle dit que quand elle s'est retrouvée enceinte, mon père est rentré à Betna, qu'il a parlé à Majid, qu'il a parlé à Jeudi, et qu'après, quand il est remonté dans le train, Jeudi lui a dit « je te souhaite d'être heureux » ou je sais pas quoi. Ça, c'est la version de
maman. Non, moi, j'ai pas cette version. Moi, j'étais le plus jeune, peut-être que j'importais peu pour me divulguer un secret pareil ou... tu vois.
Plus j'avance dans mes rencontres, plus il devient évident que Jeddi, mon grand-père, n'était pas au courant du mariage de son fils et qu'il l'a désapprouvé. Dans ce que me dit Nourdine, un nom a été prononcé, Fadela. Fadela est la cousine qui était promise à mon père depuis l'enfance. Ma mère m'a parlé de cet engagement, mais visiblement elle a sous-estimé son importance. Je décide donc d'aller voir la promise de mon père, Fadela. Je n'ai pas besoin de la chercher loin, car Fadela est une Bene Jai. Et en tant que telle, elle habite Bene Jai Street.
Mes grands-parents sont des frères. Le père de mon père et le père de ma mère sont des frères. D'accord. Donc ma mère et mon père sont des cousins germains. sont des cousins. Et ma tante et mon oncle, c'est aussi la même chose.
D'accord.
Sont des cousins germains.
Pour que vous compreniez mieux le lien de parenté de Fadila et de mon père, il faut que je vous raconte une petite histoire.
Ma tante, bien sûr, lorsque leur père est décédé...
Mon arrière-arrière-grand-père, Deraji Benejahi, a eu 4 fils. Ses 4 fils s'appelaient Saad, Ahmed, surnommé Hamida, Amar et Tayeb. L'aîné, Saad, est un très bon agriculteur. Le second, Hamida, est un lettré en arabe. Le troisième est, comme l'aîné, un bon agriculteur. Et le quatrième, Tayeb, est doué pour le commerce. Les 4 frères Benejahi comprennent que s'ils gèrent leurs biens tous ensemble, ils seront plus forts. Les 2 agriculteurs s'occupent de la ferme, le commerçant se charge de vendre les produits qu'il cultive et Hamida fait fructifier l'argent en achetant des terrains supplémentaires. Sur chaque acte de vente, il prend soin de faire mettre les noms des 4 frères qui possèdent ainsi tous leurs biens en indivision. Hamida, le plus audacieux, fréquente des Français. Et il parvient même à siéger au conseil municipal de Betna en 1925. On le voit posé sur la photo officielle, en chèche et gandoura immaculée, comme les 4 autres Arabes présents. Ils sont comme des petits nuages blancs dans l'uniformité noire des complets vestons des Français. Les Benejahi s'enrichissent et pour ne pas éparpiller le patrimoine familial, ils marient leurs enfants ensemble. Ainsi, les 2 fils aînés de Saad épousent 2 filles de Hamida. Abdella, mon grand-père, se marie avec sa cousine germaine, Sharifa, qui est ma grand-mère. Et Nejai, le frère de mon grand-père, épouse Huria, la sœur de ma grand-mère. Ce sont donc Abdella et Sharifa qui ont promis de marier leur fils Hossein à Fadela, la fille de Nejai et Huria. Fadela est célibataire et il est inimaginable qu'elle vive seule. Donc elle habite dans la maison de son frère. Quand je vais lui rendre visite, sa mère, Huria, vient de mourir des suites d'une longue maladie. Fadela, qui est une des rares femmes de la famille à avoir fait des études supérieures, a passé ses 2 dernières années à partager la chambre de cette mère malade à qui elle a prodigué soins et repas jusqu'à la fin.
Je partage la même chambre qu'elle, oui.
Je lui demande de me raconter l'effet qu'a eu le mariage de mes parents dans la famille.
Mon oncle et ma tante n'ont pas accepté, même d'autres familles. Hein. Ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est le fait de se marier sans leur avis, sans qu'ils leur disent. Il s'est marié en cachette.
Je ne sais plus qui m'a dit que, en fait, normalement, mon père et toi, vous étiez promis.
Paraît-il. Bon, c'était les parents qui parlaient, mais nous, entre nous, enfin, il n'y avait rien. Mm-hmm. C'était cousins et cousines, on vivait la même maison, mais...
Mais du coup, toi, tu pensais que vous alliez vous marier quand vous seriez plus âgée?
Non, moi, non, pas spécialement. Hein. Moi, j'entendais les parents me dire, voilà, voilà. Mais si les parents avaient décidé, peut-être que j'aurais accepté. Enfin, c'est-à-dire, j'étais pas orientée vers lui, hein, non, pas du tout. Non, je considérais comme cousin, point final. C'est-à-dire, ouais. On vivait dans la même maison, c'est tout.
Ouais.
Mais avant, c'était pas comme maintenant. Hein. Avant, si les parents décident, hein, point. Ouais. Les enfants ne disent rien.
Hein. Et toi, t'as pas envisagé de te marier?
Non, si, pourquoi pas, mais c'est-à-dire les prétendants que j'ai eus, ça m'a pas plu, c'est pas ce que je voulais. Ouais, voilà. Ouais. Le maktoub, comme on dit nous en arabe, c'est pas si tu connais le mot maktoub, ouais. C'est le destin.
Ouais.
Chacun son destin.
Je sens la réticence de Fadela à me parler. Après tout, il n'y a aucune raison qu'elle se confie à la fille de sa rivale. Mais ça ne m'aide pas beaucoup à comprendre le déferlement de haine contre ma mère. Pourquoi est-ce qu'ici on la considère comme responsable de la mort de mon père? Je me perds en conjectures jusqu'à ce que je parle par hasard à ma cousine Nadia. Jusqu'ici, personne dans la famille n'a évoqué Nadia devant moi. Je l'appelle pour lui demander le numéro de téléphone de quelqu'un, et on se met à discuter de ce que je suis en train de faire. Ces remarques attirent tout de suite mon attention.
Comme tu veux. Où est-ce que tu veux
Nadia est une des rares Benejahi qui a quitté Batna. Elle est professeure à l'université d'Alger.
Oui. Donc les Benedjah, ils sont originaires des hauts plateaux d'une petite ville qui s'appelle Magra, entre Msila et Barika. Et donc les Benedjah ont émigré à Batna et ils ont acheté beaucoup de terres là-bas. C'est pour ça que la famille, les Benedjah, ils sont une famille endogame. Ils se sont énormément mariés entre eux. Ils veulent se garder leurs terres pour eux, dans leur famille. Ceux qui ont mis fin à cette belle aventure, c'est Hossein et moi.
Vous l'aurez compris, Nadia, c'est un peu la sociologue de la famille. Pourtant, ce n'est pas son analyse qui m'a le plus éclairée, mais son histoire.
De ce changement de mode de vie. Voilà.
C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que tu savais sur Fadela et sur mon père ?
Je savais que Fadela était promise à Hossein et que moi, j'étais promise à Jamel. Mais on n'en parlait jamais. Ça ne se disait pas, mais tout le monde le savait. Mais on en parlait comme ça. Fadela, quand on parlait devant elle de Hossein, elle rougissait. Mon histoire a été beaucoup façonnée par l'histoire de Fadela. Beaucoup, d'accord, beaucoup, beaucoup. La vie de Fadela a été gâchée. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans des milieux comme ça, un peu très traditionnels, très conservateurs, quand une fille est promise à un cousin et que le cousin ne l'épouse pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, je sentais quand même monter des tensions entre mes tantes, entre mes oncles, mais toujours dans le non-dit. Pour une broutille, mes tantes se sont sérieusement fâchées et elles ne se sont pas parlé pendant très longtemps. Mais moi, je sais que ce n'est pas par rapport à la broutille. Je sais que c'est par rapport à ce contentieux-là. C'est-à-dire, ma tante avait trop de fierté pour dire pourquoi Hossein n'a pas épousé ma fille et mon autre tante avait trop de fierté pour dire « excusez-moi ».
Je ne sais pas si vous vous souvenez de la famille Benedjah, mais ces deux femmes qui sont fâchées sont deux sœurs et leurs maris sont deux frères. Quiconque a des frères et sœurs comprendra qu'une promesse violée dans ce cas-là, c'est très grave. Mais revenons à l'histoire de Nadia et du cousin qu'on lui a promis, Jamel.
Donc avec Jamel, par exemple, on ne pouvait pas se retrouver seul dans la même pièce. On ne pouvait pas se retrouver seul parce qu'il y avait cette chose qui planait, que tout le monde savait, mais dont personne ne parlait. Mais j'ai eu à partager plus avec lui parce qu'on vivait dans la même maison. Et Jamel a toujours été un étudiant brillant. Et moi, Jamel, honnêtement, il m'a beaucoup apporté parce que, comme il voyait que je m'intéressais à la littérature, tout, il me donnait des livres, il me faisait écouter de la musique, tu vois. Je l'adorais, mais... Moi, je crois qu'il y avait dans ma tête une histoire d'inceste, comme ça, je sais pas, des choses un peu bizarres, comme ça. Et donc, en 75, j'avais 18 ans. Et j'ai compris très très tôt que la seule manière pour moi de m'en sortir, c'était justement de faire des études. Et j'ai été en pleine expansion, comme ça. La fac, je découvrais la culture anglo-saxonne, l'Amérique, l'Angleterre, les littératures allemandes, les philosophes allemands. Ça me donnait le tournis. Et j'ai été, je vais te dire, la première Benedjah à avoir été à l'université. La première. Et donc, à un certain moment, j'étais en deuxième année de fac, donc c'était après la mort de ton père, Jamel a émis le désir de m'épouser. Et mon père, bien sûr, a dit oui. Donc, dans un premier temps, je me tais. Et puis, un jour, je rentre à la maison, je dis à ma mère, il n'en est pas question, jamais je l'épouserai. Branle-bas de combat dans la famille, grosse histoire, plus grave que celle de ton père, parce que là c'était moi. Donc une femme, ils m'ont fait rentrer à Batna, tu reviens plus à la fac.
Ah bon ?
Ou tu épouses Jamel ou tu reviens plus. Donc j'écris une lettre très méchante à Jamel, je ne veux pas me marier avec toi, tu n'as pas honte, tu n'es pas un homme.
C'est-à-dire, je voulais le blesser pour qu'il aille dire à mon père, je veux pas d'elle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir mon père et il lui montre la lettre. Pendant 5 mois, j'avais l'impression que ma famille voulait me briser, voulait me tuer. Et je me disais, non, purée, ça ne va pas s'arrêter là, je ne vais pas... Parce que je savais, c'est-à-dire avec Jamel, j'allais être une bonne petite maman, une bonne petite maîtresse de maison, j'allais lui faire des enfants. Et j'avais l'impression que ma famille voulait arrêter ma vie. Et je ne voulais pas que ma vie s'arrête là. Non. Donc j'ai un jour, je me rappelle, avec mon père, mon grand-père, mes oncles, bon, je te dis pas les conseils de famille, et moi les pleurs, et j'ai fini par leur dire d'accord, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que vous allez le regretter. Et donc ils ont programmé le mariage pour l'année d'après, je me suis mariée. J'ai eu une nuit de noces absolument atroce pour moi. Le lendemain, je voulais rentrer à la maison, voilà, chez mes parents. En fait, je me sentais une dette envers ma famille. Et en leur offrant ma virginité, ce que j'ai de plus cher, le sang de ma virginité, il est au Benjaï. Mon sang est le vôtre, je vous le redonne, maintenant vous me foutez la paix. Et alors mon grand-père, mon père, ma grand-mère, ils me disent « Comment ça tu rentres à la maison et tout ?» Et moi je pleurais, non je veux rentrer à la maison. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu que je rentre moi à la maison, ils sont venus habiter avec moi. Et je leur disais « D'accord, ce que vous voulez, je fais. Je lave son linge, je prépare à manger, je fais ce que vous voulez. Je ne veux pas vous faire souffrir, ne me demandez pas une chose. Je ne veux pas dormir avec Jamel. » Voilà. Donc moi, donc en tant qu'épouse de Jamel, qui devait venir à Alger travailler, donc je viens avec lui. Et on habitait une petite maison à Hentaya. Je suis restée 3 jours. Et bien jusque-là, il ne me touche toujours pas. Hein. Parfois, il pleurait, et moi, je le consolais. Je lui disais qu'il ne fallait pas qu'il pleure, que ça me faisait de la peine qu'il pleure. Il avait envie de se taper la tête contre les murs. Mais je ne le laissais pas me toucher. Je fais ce que tu veux, mais tu ne me touches pas. Le 4e jour, Jamel part le matin au travail et moi, je prends un sac, je prends le bus et je vais à Batna. Bien sûr, mon père était fou furieux. Et là, il me dit, d'accord, tu rentres. Il me dit, mais sache que tu ne mettras plus le nez dehors, tu ne travailleras pas. Et j'ai été mise en quarantaine. C'est-à-dire que même mes sœurs et ma mère avaient peur de me parler. J'avais 21 ans, c'est quand je pense maintenant. Oui. Mon père avait des insomnies, ils ont vécu ça. Ça a été un drame dans la famille, pire que Hossein. Et moi, comme j'étais jeune, je dormais. Et il venait me réveiller. Il me dit... Tu te lèves maintenant. Toi, tu dors et moi, je ne dors pas. Tu te lèves, tu ne vas pas dormir. Tu restes assise là. D'accord. Tout ce que tu veux, mais je ne retournerai pas chez Jamel. Voilà. Je suis restée 4 ans dans cet état, 4 ans de ma vie. Entre-temps... Le frère de Jamel, son jeune frère, se marie. Donc Jamel descend à Batna. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon père. Je crois qu'ils ont eu une altercation à mon sujet. Et Jamel a dû blesser mon père. Mon père rentre fou furieux à la maison. Et il dit à ma mère... Tu me prépares ses affaires, je lui rends toutes ses affaires et je prends rendez-vous la semaine prochaine. On va au tribunal, divorce. On va au tribunal, c'était juste à côté. Donc on rentre chez la juge, c'était une femme. Et quand on est sorti avec Jamel, donc il dit à mon père, laisse Rally, c'est moi qui vais la raccompagner. Il me raccompagne à la maison, dans sa voiture. On pleure tous les deux à chaudes larmes, comme un frère et sa sœur. Il me raccompagne à la maison. Et ce jour-là a été un jour très, très triste pour moi, aussi triste que le jour de mon mariage avec Jamel. Tu sais, cette génération-là, en fait, ils se sont vus un peu mourir en Hossine et en moi. Tu comprends, ces vieux avec leur turban, avec leur certitude, avec... Et puis, nous, on vient comme ça, briser ça. Tu les brises. Leur système était en état d'agonie. Hossine a tué une génération. Et moi, je l'ai achevé.
Avant que je parte, Nadia m'a dit « Il faut que tu entendes le chant des tiens. » C'est elle que vous écoutez à présent.
C'était Mes années boom, une enquête algérienne, la première saison et le troisième épisode, Les Promises, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Marie Placet et Emmanuel Geoffroy. Si vous voulez connaître la suite, il n'y a qu'une solution, c'est vous rendre sur toutes les bonnes applis de podcast et vous abonner à Mes années boom, ou bien encore, donc c'est la deuxième solution, vous rendre sur le site de France Culture et vous entendrez la totalité des 10 épisodes qui composent cette série intitulée, encore une fois, Mes années boom. Merci pour cet épisode à Leila, Noureddine, Fadela, Nadia, Katia Kameli, Dao, Djerbal et Rabia Kilak. Merci également à Jeanne Delecroix, Zoé Marie Roulier et à Sandrine Chaperon.